voix nue. Cette semaine, Odile Conseil rencontre François Morel. Ce soir, aller loin avec des mots simples.
Alors ces derniers jours, nous avons fait connaissance avec le jeune Morel. Nous avons rencontré l'acteur, nous avons écouté le chanteur.
Et nous sommes maintenant avec le vieux Morel.
Non, ce soir, dans la famille artiste de variété, je demande l'écrivain.
L'écrivain, le mot est fort.
Si. Il y a un écrivain en vous, vous écrivez beaucoup. Alors, les chansons, on l'a vu, vous écrivez des chroniques, vous avez écrit un roman, un dictionnaire, des cartes postales, des listes de courses aussi, j'imagine.
Oui.
En fait, vous écrivez depuis toujours, non?
Oui, depuis l'école, j'écrivais des rédactions pour Monsieur Fontenay, mon professeur de français en quatrième, et pour Mademoiselle Champion en troisième. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pris le goût de l'écriture. Oui.
Vous avez le souvenir d'une rédaction qui vous aurait marqué?
Je ne sais plus, mais je me souviens que ma mère me disait « Mais c'est incroyable comme tu es dans le dictionnaire. » C'est-à-dire j'avais le dictionnaire Larousse devant moi, j'écrivais. À l'époque, je cherchais des mots compliqués. Et pour épater, pour m'épater moi-même peut-être. Après, j'ai compris que c'était pas ça, bien écrire. Justement, ce qui m'épate, par exemple, comme chez quelqu'un qui n'est pas un écrivain, mais qui a quand même un rapport avec l'écriture, c'est Raymond Devos. Je me dis, il n'y a pas un mot compliqué chez Devos. Il n'y a jamais un mot compliqué. Et avec des mots tout simples, il nous entraîne dans un univers il nous emmène loin dans son univers.
Alors votre premier livre a un titre bref mais éloquent, si je puis dire, c'est « Meux ». Vous l'avez publié en 1996, réédité en 2015 avec des gravures de Christine Patry, hein, qui est votre épouse et compagne de longue date. Le narrateur donc est un jeune homme qui peu à peu se transforme en vache, au sens propre.
Ouais.
Ce qui est étonnant, c'est que la même année, Maria Dariosek publie Truisme.
Je me souviens.
Donc, où une jeune femme devient une truie.
Ouais.
Vous vous étiez donné le mot?
Non, mais je me souviens qu'il y avait eu un article dans Libé, justement, qui faisait le parallèle entre les deux bouquins. Moi, je m'étais amusé. C'était une sollicitation de Michel Archimbault, qui est un éditeur et qui était un éditeur aussi de beaucoup de gens de théâtre, qui est très lié au théâtre et qui a été professeur au conservatoire et qui était un spécialiste de l'histoire du théâtre, etc. Et qui m'avait sollicité parce qu'il avait l'impression que je pouvais écrire des choses. Et c'est vrai que à cette époque-là, je suis dans la compagnie de Jérôme Deschamps et que le fait d'improviser sur une scène de théâtre, c'était parfois assez proche de l'écriture. C'est-à-dire, je me suis dit, finalement, quand je serai tout seul devant ma feuille blanche ou devant mon ordinateur, je peux être en position d'acteur cherchant son texte. Et c'est ce que j'ai fait. Alors là, c'était pour moi, c'était une histoire de métamorphose un peu rigolote, mais j'aimais beaucoup et j'aime toujours les bouquins de Marcel Aimé. Et je suis pas très spécialiste en littérature de science-fiction, par exemple, ça me parle pas beaucoup. Mais j'aime bien les histoires, les contes de Marcel Aimé. C'est-à-dire, j'aime bien quand la féerie naît du quotidien. Comment tout d'un coup les poules de Delphine et Marinette se transforment en éléphants, des choses comme ça. J'aimais bien un petit bonhomme, tout d'un fonctionnaire qui a une vie très régulière, qui tout d'un coup se transforme en femme. C'est des histoires qui me parlent beaucoup parce qui sont à la fois dans la réalité et dans le rêve.
Mais pourquoi avoir choisi une vache? C'est un hommage à la Normandie?
Sans doute. Oui,
vous avez hésité?
Non, je crois pas. Non. Il y avait aussi, je sais pas, la vache est très assez présente dans la littérature. Il y a un bouquin de Dubillard qui s'appelle Olga ma vache. C'est une rêverie aussi. C'est le fait qu'elles ne font rien. Elles regardent passer les trains. Elles sont un peu en dehors de la vie. En même temps, voilà. Est-ce qu'on est plus malin qu'une vache qui passe sa vie à passer d'un champ à l'autre? Bon, peut-être pas.
Mais alors, après le chien rentemplant dont on a parlé hier, à qui vous avez prêté votre voix, après le chat du rabbin, cette vache, il y a une part animale en vous, François Morel.
Sans doute. Et vous l'avez percé.
Un rugissement serait bienvenu, là. Alors, vous écrivez et publiez Les habits du dimanche en 1999. C'est une histoire de famille dont le narrateur est un jeune garçon, quelque part entre l'enfance et l'adolescence, je dirais. Il y a un air de petit Nicolas dans ce roman, non?
Oui, c'était au départ c'était un spectacle. Ça s'appelait Adrien, virgule, les mémoires. Et c'est le spectacle que je jouais en 1988, au moment où je faisais Palace, et au moment où j'ai dit à Jean-Michel Ribes, je peux pas être présent tout le temps pendant le tournage de Palace, parce que je vais jouer mon spectacle. Et c'est à ce moment-là aussi que Jean-Michel m'a dit, ah, mais si tu écris, tu peux me proposer aussi des texte pour Alfred Le Groom, le personnage que j'interprétais dans Palace. Donc Jean-Michel aussi a été extrêmement important dans ma sollicitation, enfin dans la sollicitation à écrire, quoi. Il y a des gens qui sont encourageants et c'est bien de les croiser. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc c'était un spectacle au départ. Moi, je pense que les bouquins, à chaque fois, ils ont quand même un peu un rapport avec le théâtre. C'est-à-dire, à chaque fois, Les Habits du Dimanche, c'est devenu un spectacle très vite. Et je me demande si la version définitive de ce que je fais quand j'écris, c'est quand même pas quand je suis sur une scène de théâtre et que je dis moi-même ces textes.
Mais il y a quand même un ton particulier, je trouve, qu'on retrouvera plus tard dans vos chroniques sur France Inter. Je cite juste quelques lignes. Grand-père voudrait qu'on supprime la peine de mort. Assassiner un assassin, c'est toujours assassiner qu'il dit. Et donc le jeune Adrien de dire son admiration pour ce grand-père, en notant quand même au passage qu'il est capable d'envoyer oralement à la mort tout un tas de gens. Par exemple, ceux qui se pointent chez vous au moment de passer à table. Bref, grand-père est contre la peine de mort, sauf si on l'emmerde. C'est un ton, c'est une façon d'écrire que vous avez gardé finalement, non ? Que vous conservez.
Je crois que ça m'échappe un peu. En tout cas, là, ce que j'entends, c'est la tendresse sur ce personnage-là, qui est plein de contradictions comme on l'est tous. Et plutôt, j'aime bien quand être moqueur et affectueux en même temps. J'aime bien me moquer, je trouve ça marrant de se moquer. Enfin, c'est pas grave de se moquer, mais je trouve qu'on n'ose plus se moquer aujourd'hui. Je me suis moqué de gens que j'aimais beaucoup. Je me moquais de ma tante Simone, qui se trompait avec les expressions, avec les mots. Voilà. Je rangeais ma voiture et disais, oh, tu fais drôlement bien les traîneaux, toi. Bon, je me moquais d'elle, mais ça m'empêchait pas de l'aimer, ma tante Simone.
Mais on ne se moque bien que des gens qu'on aime bien, non ?
Moi, je trouve. En tout cas, c'est les gens qui m'intéressent. C'est aussi le débat dont on parlait vis-à-vis des chiens. Ces personnages-là, on s'en moquait parce que profondément, on les aimait beaucoup.
Alors, bien plus tard, Martine Laval, des Éditions du Sonore, vous propose de publier un texte dans la collection « Ce que la vie signifie pour moi ». Et vous choisissez d'écrire un roman qui met en scène un adolescent face aux émois de l'amour et à l'envie furieuse d'avoir une expérience sexuelle. Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie quand même dans ce récit ?
Forcément. Bah oui, forcément. Forcément, je pense que avec le temps, je me rapproche un peu plus de moi-même. Au début, je dois aller chercher une vache laitière pour parler de l'adolescence. À ce moment-là, je parle plus d'un petit gars dans les années 60-70, un peu timide et un peu mal dégrossi et qui se sont pas spécialement joli garçon, donc oui, c'est plus proche de moi.
Et cette Isabelle Samin que vous magnifiez dans ce livre, elle a vraiment existé ?
Oui, enfin, il y en a, oui, c'est un mélange de personnages. Ouais.
Ce qui est spécifique dans ce livre, c'est que l'adolescent, le héros, donc, n'a pas de nom. Il n'est ni singularisé, ni même singulier, puisque vous le désignez toujours sous l'appellation « les hommes ». Pourquoi ça ?
Parce que là aussi, c'est un rapport avec le théâtre. C'est-à-dire que je me suis imaginé que c'est un type qui allait parler de l'amour comme dans une conférence. Je crois que l'un des premiers titres, c'était aussi « Conférence sur l'amour ». C'est-à-dire, c'était le jeu entre le particulier et le général. Toute l'œuvre de Sempé, par exemple, est basée là-dessus, sur le particulier et le général. Et en fait, ce personnage-là, il est comme ça. Il parle d'une façon un peu prétentieuse des hommes, et évidemment qu'il ne parle que de lui-même, avec intimité, quoi. Donc ça m'amusait, ce jeu, cet aller-retour entre le général et le particulier.
Il y a aussi dans ce livre qui a été adapté en bande dessinée, hein, avec Pascal Rabaté au crayon, il y a une scène qui ne vous ressemble pas, je trouve. Les hommes, donc le héros, est parti en vacances en Angleterre avec deux copains, puisqu'il s'agissait de trouver des petites Anglaises, mais les vacances ont été totalement ratées, il a plu tout le temps. Il rentre et sur le ferry, enfin, il lie connaissance avec deux jeunes Anglaises. Et là, il s'apprête quasiment à les violer jusqu'à ce que le troisième dise « Eh oh les gars, ça va pas ». Et ça, vraiment, ça vous ressemble pas? C'est quoi cette scène, François Morel?
C'est l'envie de dire aussi que l'adolescence est un moment douloureux et que c'est le moment où on peut devenir un brave type ou un salaud. Et c'est pas si loin que ça de choses que j'ai pu vivre, où j'aurais pu moi-même être un salaud et j'ai pas. Et voilà, donc j'avais envie aussi que ce ne soit pas que rose et gentil, mais aussi qu'on parle de, des fois de la brutalité des hommes, justement, quand ils ont pas réussi à passer à l'acte et que ça pourrait devenir des gens dangereux et que la frustration pourrait faire d'eux des personnages pas du tout fréquentables. Est-ce que j'ai répondu ?
Oui, ça ne vous est pas arrivé, tant mieux pour nous. Et si j'ai parlé de l'adaptation en bande dessinée, c'est aussi parce que Pascal Rabaté dessine donc le héros, ce jeune garçon, et comme il est les hommes, il a plusieurs silhouettes autour de lui, comme s'ils étaient plusieurs. C'est lui qui a eu l'idée, vous l'avez eu ensemble ?
C'est lui qui a eu l'idée.
Je trouve que c'est une idée formidable.
Ouais. Ouais, parce que justement, c'est le moment où le jeune homme pourrait. Il y a plein de chemins possibles pour devenir un homme et que. Voilà, il a un copain qui est un peu plus vigilant, peut-être un peu plus âgé, un peu plus intelligent, un peu plus de distance, et qui réussit justement à en faire que ça ne soit pas d'horribles salauds. Mais il y a un remords, un truc chez le narrateur de ce livre où il pourrait se dire « je suis passé pas loin de l'ignominie ».
Et puis, François Morel, chaque vendredi, depuis septembre 2009, vous tenez une chronique dans le 7-9 de France Inter, c'est le billet de François Morel. Donc vous y traitez à votre manière de l'actualité politique, ou pas, ou de votre actualité d'ailleurs. Est-ce que c'est difficile d'être inspiré chaque semaine depuis donc plus de 10 ans maintenant ?
Oui, c'est difficile. Par exemple, on est aujourd'hui vendredi, et ce matin, par exemple, j'ai écrit ma chronique très tard hier soir. Et finalement, il y a un truc aussi qui se déclenche, où quand on est obligé de faire un truc, on le fait. Alors je sais qu'au départ, les premières années, puisque ça fait 12 ans que je fais cet exercice-là, dès que je venais de prononcer ma chronique du vendredi matin, juste après, je me disais « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter la semaine prochaine ?» Et maintenant, il y a quelque chose qui se met un peu plus en place, où ça vient peu de temps avant le moment où je vais le dire. C'est quand même une chance absolue, c'est-à-dire je n'ai aucune contrainte, juste faire 3 minutes, parler de ce que je veux. Et c'est Philippe Val qui m'avait sollicité, puisque c'est lui qui tenait le billet du vendredi avant d'être directeur de France Inter. Et il m'avait dit « tu parles de ce que tu veux sur le ton que tu veux ». Donc c'est exceptionnel comme proposition.
Et vous ne vous êtes pas gêné pour le faire, parce qu'effectivement, vous êtes souvent drôle, parfois impertinent, quelquefois méchant aussi, non ? Méchant, ça vous va ?
Bah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, méchant, je crois pas. Des fois, je suis en colère. Alors, j'essaie toujours de ne pas m'acharner. Je sais plus. Une fois, j'étais agacé par Luc Ferry. J'avais fait une chronique qui s'appelait « Ferme ta gueule, Luc Ferry ». Ferme ta gueule. Et régulièrement, cette chronique-là passe sur les réseaux sociaux quand il a fait une déclaration qui ne plaît pas à des gens. Mais moi, j'ai fait attention, justement, quand je fais une chronique sur quelqu'un, de ne pas m'acharner, de ne pas en refaire un la semaine suivante. Je n'ai pas des têtes de Turc. Je n'ai pas envie d'avoir des têtes de Turc parce que tout d'un coup, ça peut être l'expression d'une colère où on dit voilà, mais c'est jamais définitif, en tout cas dans la méchanceté est quand même pas ma signature. Et même, je vais vous dire un truc. Je faisais des chroniques au début des années 2000 dans Le Fou du Roi. Et une fois, on avait reçu François Bayrou. Donc, j'avais fait ma chronique sur François Bayrou. Et je sais pas ce qui m'avait pris. Je pense que me disait ça, un chroniqueur, il faut qu'il soit impertinent. Et j'avais dit qu'il avait le charisme d'une tranche de jambon sous vide.
Je me suis dit, sous vide, c'est vache.
C'est, ouais, c'est un peu vache. Et je m'étais dit, ah, vrai, mais pourquoi ? Enfin, Je trouve que cet homme-là ne mérite pas ça, finalement, même si je ne suis pas d'accord sur certaines choses, j'en sais rien, puis qui je suis. Enfin bon, ça m'a paru exagéré. Une fois, j'ai pris un café en terrasse, il était très tard. C'était le soir, je tournais le lendemain matin, donc j'ai eu tort de prendre un café si tardivement, mais en fait, c'est ce que je faisais. À 10h30 en terrasse, il faisait beau, mois de juin, je sais pas. Et devant moi, passe François Bayrou. Je lui dis, Monsieur Bayrou, voulez-vous prendre un café avec moi? Il m'a dit oui, avec plaisir. Et on a pris un petit café et je lui dis, en fait, je suis pas très fier de ce que j'avais dit là. Et il m'a dit, oui, je m'en souviens très bien. Et pour moi, j'avais passé une heure et demie épouvantable. Tout le monde m'était tapé dessus. Je n'avais pas compris ce qui m'arrivait. Et finalement, c'est pas mon truc d'être méchant. Après, je m'en veux. Oui. C'est-à-dire, si c'est sur un truc précis. Un mec fait une déclaration, ça ne me plaît pas, je lui rentre dans l'art, voilà, j'ai dit mon truc, je suis pas d'accord avec lui et je l'exprime. Mais dire un truc définitif sur les gens, en général, faut vraiment que ce soit d'horribles monstres pour que je ne m'en veuille pas après.
Oui, mais par exemple, il vous est arrivé d'insulter une gamine qui avait elle-même été insultante vis-à-vis de Christiane Taubira, c'était à l'époque des manifestations contre mariage pour tous, donc vous la traitez de petite conne. Et deux semaines plus tard, vous vous excusez auprès d'elle dans une autre chronique. Vous vous rappelez ?
Oui, très bien. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était dans la région d'Angers. J'ai des copains à Angers. J'avais lu un peu la presse locale qui faisait état de cette affaire. Et en fait, dans ma tête, petite conne, ça s'adressait à un groupe de jeunes filles. Et en fait, c'était une seule qui avait jeté la banane. C'est pour qui la banane ? Mais quand même, c'est ignoble hein, de dire ça à une femme parce qu'elle est noire.
Oui.
Et en plus, donc sur le fond, je ne regrettais pas du tout ce que j'avais dit. Et même 15 jours après, j'avais remis une couche. Ce que je trouvais, c'est qu'il y avait un peu un décalage entre une gamine mal formée par ses parents qui dit une horreur et le gars qui a 50 ans, qui est sur une chaîne de radio nationale et qui va traiter de petite conne. Une jeune fille qui va se reconnaître et qui, j'espère, a le droit d'évoluer. Donc, et j'espère qu'elle aura évolué, que depuis, c'est une jeune femme qui peut-être comprend ce que j'ai dit à ce moment-là. Mais c'est pas, je voulais pas que ce petite conne soit définitif pour elle, quoi. On a le droit d'évoluer.
Vous étiez proche de Charles Bécabu, qui ont été assassinés le 16 janvier 2015 avec d'autres. Ça a été difficile d'écrire quelque chose sur le sujet dans votre chronique suivante ?
Bon, c'était dur pour tout le monde d'écrire quoi que ce soit après ces horreurs-là. On était en passe de devenir amis avec Charb, mais je n'étais pas un proche de Cabu et de Charb. C'est des gens que j'aimais beaucoup et que j'ai rencontrés plusieurs fois. J'ai même fait un spectacle avec eux un soir à Châlons-en-Champagne, un concert dessiné, c'était un souvenir merveilleux. Mais ce sont des gens que je commençais à approcher, que je voyais de plus en plus régulièrement grâce à mon copain Patrick Peloux. Et on avait dîné ensemble avec Daniel Pénac, notamment, en décembre avant les attentats. Donc, quand on s'est quitté avec Charb, je me souviens très bien, je vais dire, en janvier, tu viens manger à la maison. Donc, c'est une relation qui débutait. Mais tout le monde était tellement triste, tellement désespéré. Et Cabu, c'était tellement une gentillesse inouïe, quoi. C'est-à-dire que son agressivité, il la mettait dans ses dessins, mais c'était le type le plus délicieux, le plus courtois qui soit dans la vie. Et chaque moment passé avec ces gens-là, grâce à Patrick Peloux, c'est des moments formidables, parce qu'en plus, quel talent, enfin, Cabu qui dessinait tout le temps, qui avait toujours son carnet sur les genoux en train de dessiner la personne en face, qui était même capable parfois de dessiner de dos. Quand il participait à des meetings d'extrême droite, comme il voulait pas se faire reconnaître, il dessinait dans son dos, parfois dans sa poche.
Ah oui, de dos à lui, il dessinait pas.
Oui, c'est-à-dire qu'il dessinait. Non, il dessinait pas les personnages de dos. Lui dessinait en faisant des types très ressemblants, mais en le faisant dans son dos à lui. C'est incroyable.
Exceptionnel.
Ouais.
Et ce jour-là, pour cette chronique-là, vous avez choisi d'écrire une lettre à Patrick Peloux, justement.
Bah, j'ai pas le souvenir. J'ai pas exactement le souvenir de cette chronique-là. J'ai le souvenir du moment où je l'ai appelé le matin quand ça s'est passé. J'ai encore dans l'oreille le hurlement de Patrick et de son désespoir.
Plus récemment, vous avez pris la défense du dessinateur Xavier Gors, qui a claqué la porte du Monde après que le quotidien avait présenté des excuses suite à un dessin sur les familles recomposées et l'inceste publié dans la newsletter. Ce jour-là, vous affirmiez « Il y a deux choses que j'aime dans la vie, c'est l'humour et la nuance, qui sont deux irréconciliables. » Vous marchez toujours dans vos chroniques du vendredi, dans ce que vous appelez ces petites rédactions du vendredi matin, sur le fil fragile qui est tendu entre ces deux irréconciliables, non ?
Oui. C'est-à-dire que c'est quand même un dessin, c'est plutôt un acte d'amour et de gentillesse, même s'il y a de la méchanceté dans le dessin, ça mérite pas les tombereaux de merde, de violence déversée sur les réseaux sociaux, quoi. C'est juste un monsieur qui dessine en faisant un pas de côté et qui raconte l'actualité à sa manière. Ça méritait pas du tout cette violence-là, quoi. Donc j'ai défendu naturellement, voilà. Mais c'est vrai que c'est souvent mon truc, c'est-à-dire tout à l'heure, comme je vous parlais de Tata Simone, hein, c'est-à-dire être à la fois moqueur et tendre, je crois que c'est possible. On peut rigoler et avoir de l'affection. Je trouve que j'aime pas trop la violence. En fait, je trouve qu'il faut se calmer là-dessus. Il faut être un peu plus calme, un peu plus respectueux des autres, quoi. Enfin, c'est bête ce que je dis, hein, mais c'est basique. Mais c'est vrai, quoi. Faut pas oublier quand même de. Faut y a un peu de charme, oui, dans la vie, un peu. Un peu de gentillesse, quoi, un peu de charme, hein, vis-à-vis des autres. On n'est pas obligé de s'insulter, hein, je vous jure.
Et le fait d'avoir soutenu Xavier Gors, justement, est-ce que ça vous a valu des insultes, de la haine sur les réseaux ?
Bah oui, je crois que j'ai plus envie de m'y intéresser. C'est-à-dire, ça ne me concerne pas. Enfin, je préfère laisser des gens avec leur haine. Ça ne me concerne pas.
Qu'est-ce qui ne vous concerne pas
La haine des gens, la haine. C'est-à-dire, si les gens ne peuvent se parler qu'en s'insultant, dommage pour eux, quoi. Mais moi, je préfère m'engueuler avec des copains, avec des gens avec qui je ne vais pas être d'accord. Je peux même être capable, par exemple, d'évoluer aussi, hein, parce que évidemment, avançons ensemble. On est chacun d'âge différent, on a des vécus différents, donc on pense pas tous pareil, et on peut évoluer vers l'autre. Mais on peut aussi écouter ce que dit l'autre, mais pas s'insulter, quoi. Voilà, c'est tout. Je sais pas, il y a un truc. Des fois, c'est de l'humour, quoi. C'est de l'humour. Je sais pas, Brassens, c'est quand même de l'humour. Il y a plein de trucs. Je pense pas qu'il est tout à fait d'accord pour trouver rigolo qu'un gorille viole un juge. En soi, dans la vie, je pense qu'il va pas trouver ça formidable. C'est de l'humour. Mm. Il y a une distance. C'est une histoire.
Parfois, vous laissez libre cours aussi au poète qui est en vous et vous écrivez en alexandrin. Ça vous est arrivé dans quelques chroniques. Mm. J'en cite une notamment qui est un hymne au camembert. Donc voici quatre vers. Contre les tristes trusts agroalimentaires, il faut se révolter et ne pas se laisser faire. Dressons des barricades, crions notre colère et ensemble sauvons le soldat camembert. Vous aimez bien sortir l'alexandrin ?
Des fois, quand j'ai des idées simples, je peux impressionner mon monde en écrivant des alexandrins. Et ça m'amuse. Il y a un style. C'est assez simple, en fait. Mais vous le savez, vous, d'écrire des alexandrins, finalement. Parce qu'il y a une petite musique qu'on a dans sa tête et qui, d'un coup, ça impressionne. Alors, on est content.
Alors, fin 2020, François Morel, vous avez publié chez Plon un dictionnaire amoureux de l'inutile. Jean-Louis Chifflet, qui travaille pour Plon et qui vous connaît bien, vous avez proposé un dictionnaire amoureux de la gentillesse. Vous venez de nous parler de la gentillesse, mais finalement, la gentillesse ne vous a pas intéressé.
C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que ça peut susciter 550 pages, quoi.
Alors que l'inutile, oui.
Et la méchanceté, oui. La méchanceté, il y a plein de dictionnaires de la méchanceté. Ils sont passionnants, ils sont drôles. La gentillesse, non, je crois pas.
Vous co-signez ce livre avec votre fils Valentin, et c'est votre épouse qui en a fait les illustrations. Donc, juste un mot sur la famille. Important pour vous, la famille ?
Forcément. Puis là, c'était assez gai d'écrire avec mon fils. C'était un jeu entre nous, c'est-à-dire que régulièrement, on s'envoyait des articles et on se corrigeait. Chaque article donnait lieu à un autre article parce que, voilà, c'était assez joyeux, sympathique de pouvoir faire une chose avec son fils parce que quand on a un garçon qui a aujourd'hui 31 ans, on passe par des moments quand même plus difficiles, au moment de l'adolescence notamment, où on a un rapport père-fils normal. Et se dire que tiens, on a réussi à dépasser ça et à s'amuser ensemble et à écrire ensemble, c'est agréable. D'autant que ça me plaisait la façon dont il écrivait. Donc au début, c'était pas gagné puisque c'est la première fois qu'il publie quelque chose. Mais je sentais qu'il avait un esprit à lui, un humour, qu'il a un regard. Et j'étais souvent ravi de ce que je lisais, de ce que je découvrais, dans sa façon de traiter les sujets. Donc oui, c'était très, très agréable de travailler ensemble.
À la lecture, on ne sent pas du tout d'ailleurs qu'il y a deux écritures.
Non, des fois, il fait exprès de m'imiter, je crois, aussi, à certains moments. Des fois, il citait Brassens ou Chaval pour brouiller les cartes.
Bon, quand même, trouver 300 entrées de l'inutile, ça a été difficile. C'est un peu votre cabinet de curiosité à vous, finalement, non ?
Oui, puis je veux dire qu'on peut tout ramener à l'inutile. Ça, c'est une façon d'interroger le monde à travers ce prisme-là qui est l'inutile, mais finalement... tout l'est, rien ne l'est. En tout cas, c'est bien tombé aussi au moment où on se posait la question de savoir ce qui était l'essentiel ou pas. Mais bon, le regard là-dessus commence à évoluer puisque heureusement les librairies sont ouvertes même en période de confinement. Et là, on se dit même que les coiffeurs vont ouvrir et les fleuristes, très bien.
Pour terminer, je voudrais juste revenir à un livre. Donc, La fin du monde est pour dimanche, qui est un titre qui vient d'une phrase de Michel Audiard. Et vous écrivez « Si la fin du monde est pour dimanche, à quel jour finit l'enfance et à quel jour commence l'âge adulte ? Et à propos, j'en suis où, moi ? Jeudi, vendredi ?» Alors, vous vous présentiez comme n'étant pas un perdreau de l'année, mais vous n'êtes quand même qu'un jeune et récent sexagénaire. Mais j'ai l'impression que garder cette part d'enfance est très très important pour vous.
Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'aujourd'hui, je me dirais, ça dépend des moments de la journée. Parfois, on est mardi et parfois, on se sent être samedi soir. Mais je sais pas. J'ai la chance d'avoir des projets, d'avoir plein d'envie encore. Et j'ai fait plein de choses, c'est vrai. Mais j'ai toujours. Un autre spectacle que j'ai joué qui s'appelle J'ai des doutes, je continue à avoir des doutes et je suis pas. J'ai jamais l'assurance de me dire tiens, je vais faire un spectacle et c'est sûr que dans 3 semaines j'aurai sorti un truc et que ça sera intéressant. Je sais pas. À chaque fois, je me dis oh, c'est un pari nouveau et je suis pas sûr de le mener à bien, quoi, jusqu'au bout. J'ai encore beaucoup de doutes, ce qui sans doute me permet de pas trop. Me rassure.
Fin de cette rencontre de Deal Conseil avec François Morel. À voix nue, réalisation Anne-Pascale Desvignes, prise de son François Rivalan, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.